programme va maintenant se poursuivre en français.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute du programme en français de Radio Prague qui vous est présenté aujourd'hui par Magdalena Hrozinková. Dans cette émission, nous parlerons cinéma avec le réalisateur français Bertrand Bonello. Ensuite, nous donnerons la parole à vous, nos auditeurs, avant de vous inviter dans la très célèbre bibliothèque du couvent de Vichy-Brotte. On commence par le cinéma. La Polonie de Souvenirs de la Maison Close était présentée le 30 novembre dernier en clôture du Festival du film français. Son réalisateur, Bertrand Bonello, était présent pour le présenter avant sa sortie en salle en République tchèque le 1er décembre. Il est revenu sur la genèse de son film au micro d'Anna Kubišta.
Culture sans frontières. La première chose, c'est que j'avais envie de faire un film avec un groupe de jeunes femmes, que j'avais pas envie d'inscrire dans des problématiques contemporaines, les petits copains, les petits boulots, etc. Et que tout d'un coup, j'ai eu l'intuition de que la maison close pouvait m'offrir tout ce que je cherchais. Et j'ai commencé à faire des recherches, tout en commençant à écrire en même temps. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus j'ai commencé à m'attacher à cette vie quotidienne, à ce groupe, à cette institution, à ces femmes. Et puis plus j'avançais, plus mon intuition me semblait juste. C'est-à-dire que ça me semblait être un vrai lieu de cinéma pour le cinéma.
Quand vous dites que vous avez fait justement des recherches, comment est-ce que vous avez fait pour le côté historique? Parce que finalement, c'est vrai que quand on voit le film, en dehors de la beauté des images, il y a aussi tout ce côté du quotidien, justement, de ces femmes. Par exemple, des choses auxquelles on ne penserait pas qu'elles doivent faire. Enfin, la toilette, mais c'est une toilette qui est différente, évidemment, du commun des mortels.
Ben, en fait, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était les détails. C'est-à-dire, je voulais pas... Ça fait toujours très peur quand on part dans de la reconstitution. Et je me suis dit que ma manière de m'en sortir, ce serait de m'attacher aux détails. Et je suis tombé sur quelques bouquins de journalistes qui, en effet, par exemple, on sait à peu près ce que faisaient les femmes entre 8h le soir et 3-4h du matin. On le sait parce qu'il y a des témoignages masculins, enfin des peintres qui étaient là, des écrivains qui étaient là, qui passaient du temps et qui rentraient chez eux, peignaient leurs tableaux, écrivaient leurs livres. Donc on voit à peu près, on a des images. La maison close, ça fait presque partie de notre inconscient collectif, en tout cas celle-ci, 1900, énormément de tableaux, le musée d'Orsay, voilà. Mais ce qui se passe entre 3h du matin et 20h, quand les femmes sont seules, en effet, moi j'étais très attaché à quelle heure elles se lèvent, comment elles se coiffent, comment elles se parlent, qu'est-ce qu'elles mangent, qu'est-ce qu'elles font, l'ennui, l'attente. Il faut savoir que ces femmes n'avaient pas le droit de sortir. La prostitution était autorisée à l'intérieur de ces maisons, dehors c'était du racolage. Donc cette espèce de lieu qui est hallucinant de beauté, etc., devient aussi une prison. Donc j'avais envie de traiter un petit peu le côté prison, l'attente, le rapport aussi. Il y a une séquence dans le film où un médecin vient. Ça c'est historique, c'est une fois par mois le médecin venait pour savoir si elles étaient soit enceintes, soit malades. Donc l'attente aussi de ça, la peur. Et donc c'est ça que j'appelle la chronique, le quotidien. Et pour ça, en effet, il y a eu 2-3 livres. Je suis tombé aussi sur des archives de police qui sont très froides mais assez passionnantes sur le trajet. Des journaux intimes, des lettres, pas mal de lettres, dont certaines sont dans le film.
Justement, vous parlez d'enfermement et de... justement, puisque c'est une maison close, d'ailleurs, le terme le dit lui-même. Ça fait penser un peu, justement, au huis clos. Il y a aussi un côté un peu théâtral. C'est quelque chose que vous vouliez dans ce film?
De toute manière, il était presque induit par le sujet. C'est-à-dire que par décret préfectoral, les fenêtres doivent être fermées, les rideaux aussi, les volets barricadés. Donc, je savais qu'on allait se retrouver dans un lieu totalement clos, comme une boîte. Alors, du théâtre, moi, je voulais éviter le côté huis clos sur une scène. En revanche, ce qui m'intéressait du théâtre, et j'en ai beaucoup parlé aux comédiennes, c'est que pour moi, la maison close a ce rapport avec le théâtre qu'il y a la scène et il y a la coulisse. Il y a le public qui serait là, les clients, et puis il y a la vérité.
Il y a les pièces qui sont différentes. Il y a une géographie finalement aussi, même de la maison close à l'intérieur, entre les pièces où on reçoit, les pièces où on s'isole après avec les clients, et les pièces de vie des femmes.
Oui, il y a tout un gros travail qui a été fait sur la circulation, sachant qu'en effet, comme on est dans un lieu assez étouffant, il fallait quand même que ça circule. Donc il y a d'abord une circulation géographique et puis aussi une circulation mentale dans le film, hein, qui m'a été permise un petit peu par le huis clos. Alors ça circule plutôt de haut en bas, c'est-à-dire qu'il y a en bas les salons comme ça d'apparat où on reçoit, et puis en monte il y a les chambres pour recevoir les clients, et puis plus on monte, plus ce sont les appartements des filles, et plus on monte, plus on va vers la dureté, vers la pauvreté aussi. Et même en termes de lumière, en bas on peut considérer que c'est encore électrique, et plus on monte, plus on arrive à la bougie, ce qui est 1900, correspond à peu près à l'installation de l'électricité à Paris.
Alors justement, 1900, c'est vraiment le tournant du siècle, hein. On parle, 1900 est associé à beaucoup d'idées comme ça, on parle du mal de fin de siècle, et puis c'est la fin d'un monde, on se rapproche de la Première Guerre mondiale, les personnes évidemment ne le savent pas encore, hein, mais c'est vraiment la fin d'un monde. C'était aussi ça qui vous intéressait, de décrire justement le déclin d'une certaine forme de civilisation?
Le déclin, la fin, c'est ça, enfin moi la fin des choses, c'est toujours quelque chose qui me touche. Et 1900, alors par exemple on le voit à Paris, c'est l'arrivée de l'électricité, du téléphone, l'arrivée du métro, enfin il y a déjà toute une forme de modernité qui se met en place. 1900, c'est un siècle qui se termine avec des idées qui seraient que le prochain sera un siècle formidable, sans guerre, sans maladie. L'histoire a montré que ce sera le siècle le plus sauvage de l'humanité. Et puis voilà, il y a quand même une forme de crépuscule à ce moment-là. Et puis vous parliez de la Première Guerre mondiale, on la voit pas encore arriver, on commence déjà. J'ai hésité beaucoup, hein, sur la date, puisqu'historiquement les maisons closes ferment en 1946. Donc j'avais pensé faire le film en 1946, traiter la fermeture des maisons closes, et puis l'après-guerre ne m'intéressait pas beaucoup, et puis je préférais me concentrer sur une maison. Et vraiment, à quelques années près, j'ai vraiment choisi 1900 pour toutes ces raisons-là. Déjà en 1905, 1906, le statut des maisons avait changé, on pouvait pressentir quand même une Europe un petit peu en train de bouger. Mais 1900, cette charnière me semblait plus intéressant, et en plus, esthétiquement, plus fort.
Et la Polonite, c'est une maison qui a existé vraiment, ou c'est finalement le résumé de plein d'autres maisons dont vous avez pu lire l'histoire?
Alors, en tant que telle, on va dire que c'est un mélange de 3-4 maisons. Après, le nom Apollonide, c'est en fait la maison de mon enfance, qui n'était pas un bordel, même si elle était assez vivante. Mais comme je voulais une maison spécifique, la nommer, etc., bon, là, j'ai pris le nom qui pour moi était le plus affectif. Ceci dit, voilà, Apollon, Dionysos, on peut faire des liens. Ça aurait pu être le nom d'une maison close.
Alors, le sexe est assez présent dans vos films, même très présent. Est-ce que la sexualité, voilà, cristallise quelque chose de particulier de l'humain pour que vous ayez envie de décrire voilà, des personnages à travers leur sexualité?
Mais c'est pas si présent en fait, hein. C'est-à-dire, on a l'impression, mais si on réfléchit, il y a tellement de scènes. C'est-à-dire que je pense que je m'intéresse plus à des mondes un peu marginaux. Il se trouve que qui dit monde marginal, on a souvent le sexe qui est pas loin. Et pour moi, ce qui m'intéresse dans les mondes marginaux, c'est qu'ils essaient toujours de refabriquer un monde à l'intérieur du monde, avec ses propres règles, ses propres utopies. Donc là, bon, c'est une maison close, le précédent c'était une secte, etc. Donc c'est vrai qu'on est très vite confronté au corps, à la sexualité, surtout au corps. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment le corps interagit un petit peu avec avec l'esprit, comment il peut l'affecter, Par exemple, dans Tiresia, il y avait un personnage qui était transformé parce qu'on lui crevait les yeux. Ici, un personnage aussi qui subit une défiguration. Donc c'est aussi ça, le corps. C'est pas que la sexualité. C'est tout ce qui peut encaisser, subir, ressentir et comment ça rejaillit après sur le récit.
Quels principes vous ont guidé pendant le tournage? Est-ce que vous avez donné des règles? Est-ce que vous travaillez avec des règles dont vous ne dérogez pas?
À un moment, on a parfois tellement de possibilités ou si peu de possibilités qu'on essaie de se donner, oui, une direction et on essaie de s'y tenir. Sur ce film, par exemple, de mémoire, on s'était dit que, avec la chef opératrice, que on mettrait toujours les femmes au centre du cadre et qu'on n'allait pas filmer les hommes. C'était parce qu'à un moment, comment filmer tellement de gens dans un salon? Et je me suis dit non, on va respecter un point de vue qui est celui un petit peu féminin. Et donc, on ne filmera que les femmes et les hommes, ben, on verra ce qu'on verra. C'est-à-dire une épaule, un petit peu à droite, peut-être dans un plan large. Voilà, ça c'est le genre de règles que je me mets, quoi.
C'est justement l'objet de ma question suivante, en fait, justement, c'était quel est le rôle finalement des hommes dans ce film, parce que c'est vrai qu'ils sont présents, mais en même temps, c'est pas du tout eux qui ont le rôle de premier plan, évidemment. Mais la maison close fonctionne aussi à cause d'eux.
Ben, c'est pas du tout un film contre eux. Mais à un moment, il faut choisir quel est son sujet. Voilà, je l'ai choisi. Donc, du coup, avec ce principe de mise en scène, ce dont je me suis aperçu au montage, c'est que ça leur donnait un rôle quasi fantomatique, mais dans le sens de fantôme. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme des ils rôdent, ils sont là, on les incarne pas trop et en même temps on a besoin de leur regard. Donc après, on est dans une maison très chic qui invite plutôt des habitués. Il y a un lien social qui est très très important. Ils ont un rapport plutôt courtois. On parle pas de l'événementiel, hein, c'est-à-dire qu'en effet il y a un drame, mais d'une manière générale, ils ont un rapport plutôt courtois avec les femmes. Il y a des relations suivies. Il y en a même un qui est sa maîtresse privilégiée. Donc c'est aussi tout ça qui m'intéressait. C'était la sociabilité de la chose et le comment cette maison close est aussi un lieu social.
Pour terminer, je voulais vous demander aussi quel est le rôle de la musique dans vos films, puisque justement dans ce film-là, vous utilisez des musiques qui sont anachroniques. Quelle est pour vous l'importance de la musique? Est-ce vous qui choisissez justement la musique?
Alors moi, la musique, j'essaie toujours de m'en occuper le plus tôt possible, c'est-à-dire vraiment au moment de l'écriture du scénario, que ce soit les musiques originales, que bon, j'ai la chance de pouvoir faire, donc ça va assez vite, ou les musiques existantes, tout est vraiment noté, dans le sens où moi, pour moi, la musique est là pour raconter quelque chose et non pas pour illustrer quelque chose. Donc, en la mettant au moment du scénario, elle s'inscrit vraiment dans le récit. Donc, si par rapport aux musiques dont vous parlez, qui sont plutôt des musiques des années 60, de la musique américaine, de la soul, j'en écoutais en écrivant et puis, très rapidement, pour moi, il y a un lien d'abord affectif qui s'est fait entre ce groupe de femmes et cette musique. Que je peux expliquer peut-être, hein, c'est-à-dire que dans les deux cas, on peut faire un lien avec une forme d'esclavagisme, l'esclavagisme nord-américain d'où vient la soul et cet esclavagisme sexuel de ces femmes. Il y a aussi un lien, dans les deux cas, il y a quelque chose que je trouve assez comme une sorte de cri déchirant, très émotionnel. Donc l'idée, c'était pas du tout de faire de l'anachronisme pour rompre, mais plutôt d'aller chercher des choses qui me touchent et de les rassembler pour en créer une troisième qui n'appartiendrait qu'à ce film.
Le réalisateur Bertrand Bonello vous a présenté son film « L'Apollonie de souvenirs de la maison close ». Il répondait aux questions d'Anna Kubista. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Place maintenant à vos lettres, chers amis, à vos lettres lues et citées par Jean-Sébastien Létan.
Courrier des auditeurs.
Ces deux dernières semaines, vous avez été plus nombreux à nous envoyer des rapports d'écoute. Toute la rédaction française de Radio Prague vous en remercie chaleureusement. Vous avez été cependant moins nombreux à nous faire parvenir des questions. Cela veut-il dire que nos articles sont de plus en plus clairs et limpides? À noter que nous avons reçu 3 lettres manuscrites. Cela fait plaisir de savoir que nos auditeurs prennent le temps de rédiger de vraies lettres pour témoigner de leur fidélité à la station. Monsieur Hervé Brien nous écrit de Talence, en Gironde, pour nous parler des concerts de l'orchestre Primavera de l'université de Hradec Králové, du chœur Kos, ainsi que de l'ensemble Tchelvanek auquel il a assisté. Merci pour les vidéos et nous espérons que vous avez passé un bon moment en leur compagnie. Hervé nous a également posé la question suivante.
Pour terminer ce court courriel, une question sur les ventes Internet. Cette année encore, les ventes de Noël sur Internet vont connaître une très forte croissance en France. En est-il de même en République tchèque ?
En effet, les ventes Internet progressent au moment des fêtes de fin d'année. Cependant, nous sommes encore loin du niveau français, surtout qu'il n'existe pas beaucoup de web-boutiques proprement tchèques, d'où la nécessité d'avoir recours à des boutiques internationales et donc de payer des frais de port coûteux. Cependant, avec la démocratisation du web et la sécurisation des paiements, ce type de vente devrait prendre de plus en plus d'importance. Monsieur Philippe Aubray de Côte d'Ivoire nous a envoyé plusieurs rapports d'écoute et nous a beaucoup écrit, notamment au sujet de la crise des médecins tchèques et slovaques et de la grève dans les écoles.
Il y a trop de mouvements de mécontentement en ce moment chez vous. Hier, pour parler comme ici, c'était les médecins en solidarité avec leurs homologues slovaques. Maintenant, ce sont les enseignants qui décident de débrayer, encore que là, il s'agit d'avertissements puisque c'est d'une heure que les cours sont décalés. Mais les enseignants ne sont-ils pas des fonctionnaires? Une loi ou un décret ne régit-il pas la grille salariale?
Les enseignants sont bien des fonctionnaires et leur statut est régi par la loi. Cependant, comme beaucoup de pays d'Europe, le gouvernement souhaite défendre une conception managériale de l'éducation. Sa ligne libérale souhaite subordonner les enseignants à des exigences de résultats, comme dans le privé. Cela, bien sûr, est fait au détriment de la sécurité qu'apporte le statut de fonctionnaire. Quant à M. René Durand de Loire-Atlantique, qui nous a envoyé un rapport d'écoute, nous l'avons bien reçu, malgré le fait qu'il y ait eu un problème dans l'envoi de sa confirmation. Notre secrétaire vous l'a renvoyé il y a peu. Nous espérons que vous l'avez dorénavant reçu. Ange Paul nous écrit pour nous faire part de sa tristesse face à la disparition des ondes courtes. Vous êtes nombreux à les regretter, nous aussi, comme vous vous en doutez. Mais le web a tout de même ses facilités, et nous faisons en sorte que vous preniez le même plaisir à nous écouter, quelle que soit la technologie utilisée. Nous remercions chaleureusement Christian Guibaudot des Alpes-Maritimes et Roger Roussel du Nouveau-Brunswick pour leurs cartes de vœux qui ont traversé plusieurs pays avant de nous parvenir. Et concluant en saluant Motofumi Kai, professeur d'université à Tokyo et amateur de littérature, en espérant que vous trouverez encore le temps de nous écouter malgré votre emploi du temps chargé. Salutations amicales à tous nos auditeurs de France, de Belgique, du Canada, d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs. Continuez à nous écouter et à nous soutenir par vos messages. À bientôt sur Radio Prague.
Merci à Jean-Sébastien pour ce courrier des auditeurs. Dans cette émission littéraire, aujourd'hui, Václav Richter vous emmènera dans une bibliothèque célèbre et se trouve dans un couvent et abrite de nombreux livres anciens et précieux. Cette visite dans la bibliothèque du couvent de Vichy-Brotte, en Bohême du Sud, est en même temps une invitation à découvrir les charmes des monuments historiques et de la nature d'une des plus belles régions de République tchèque.
Rencontre littéraire. Les visiteurs du Český Krumlov, ville de Bohême du Sud, figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ne devraient pas négliger d'autres sites charmants de la région. Dans la petite ville proche de Vichy-Brotte se trouve, en effet, une des plus importantes et plus belles bibliothèques monacales de République tchèque. Miraculeusement préservée des vicissitudes de l'histoire, la bibliothèque est un lieu privilégié qui illustre la spiritualité, la mission et les ambitions de l'ordre cistercien. Vichy-Brotte, en allemand Hohenfurt, est une bourgade située au pied du massif de la Schumava en Bohême du Sud. Elle se trouve tout près de la frontière autrichienne dans une contrée romantique éloignée de grandes agglomérations. La vie dans cette région n'est cependant pas facile. Les hivers y sont longs et rudes, les étés souvent maussades. Le paysage exhale pourtant un charme irrésistible. Les maisons de la ville sont disséminées sur les deux rives de la Vltava. La tour blanche de l'église du couvent couronne le panorama de cette petite ville pittoresque qui semble sortir d'une légende ou d'un conte de fées. On y a parfois le sentiment que le temps s'est arrêté dans cette bourgade qui invite au recueillement, à la méditation et à la prière. Un village existait ici déjà au XIIe siècle. Les habitants de ce bourg veillaient alors sur un guet sur la Vltava et sur le chemin des marchands reliant les pays de la couronne tchèque à la vallée du Danube. En 1259, le seigneur du domaine, Vogt Ier de Rogenberg, a fondé dans ses parages un couvent de cisterciens auquel il a fait don du village. Selon une légende, Vogt de Rogenberg fonde le couvent pour remercier Dieu de lui avoir sauvé la vie. En traversant le gué de la Vltava en crue, il faillit périr dans le courant et au moment de la plus grande détresse, il se promet de construire un couvent au bord de la rivière, à l'endroit où se trouve une petite chapelle. Miraculeusement sauvé, il tiendra sa promesse et le couvent dont il sera le fondateur sera placé sous la protection du roi Przemysl Ottokar II. Le couvent existe donc depuis 7 siècles et le visiteur y trouve encore aujourd'hui de nombreux vestiges du premier gothique, style de l'époque de sa fondation, mais aussi l'architecture du gothique rayonnant dans les édifices construits plus tard. Au XXe siècle, le couvent a probablement subi les épreuves les plus difficiles de son histoire. Les moines sont d'abord chassés par les nazis allemands, puis par les communistes. Et ce n'est qu'après la chute du communisme en 1989 qu'une petite communauté des frères cisterciens se réinstalle à Vichy-Brott. Aujourd'hui, les cisterciens y mènent une vie monastique tout en s'occupant des monuments historiques qui ont été restitués à leur ordre. La bibliothèque est probablement la partie la plus précieuse du couvent. Par la richesse de ses fonds, elle est la 3e bibliothèque monastique de République tchèque. L'abbé Jan Justin Berka rappelle que l'état actuel de la bibliothèque est dû à la continuité historique de l'existence de ce couvent cistercien.
Ponieważ nasz klasztor nie był zrušen ani husity,
notre couvent n'a été supprimé ni par les Hussites, ni pendant la guerre de 30 ans, ni par les réformes désastreuses de l'empereur Joseph II. Et les moines ont été chassés pour la première fois de Vichy-Brod qu'en 1941. Cette longue continuité de la présence de l'ordre religieux dans ces lieux a sauvé la bibliothèque. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale et ensuite sous le régime communiste, il y a toujours eu ici, dû en soi louer, une section de la bibliothèque scientifique de la ville de České Budějovice. Et la bibliothèque monacale a ainsi pu être préservée jusqu'à nos jours. C'était un heureux concours de circonstances.
La bibliothèque telle que nous la connaissons aujourd'hui date du XVIIIe siècle, mais l'abbé Jan Justin Berka, administrateur du couvent, constate que les livres qu'elle abrite sont encore plus anciens. L'administrateur rappelle qu'une bibliothèque existe dans ces lieux depuis le XIIIe siècle et que la décoration, qui est l'œuvre d'artistes baroques, ne l'orne donc que depuis le début de la dernière étape de son existence.
Les moines ont fondé la bibliothèque lorsqu'ils ont apporté les premiers livres du couvent de Hillering. Dans la bibliothèque, il y a 70 000 volumes, dont 1 800 manuscrits. 203 manuscrits sont écrits sur le parchemin. Le reste est sur le papyrus. Il y a également 600 incunables, c'est-à-dire premières impressions. Il s'agit de livres très précieux. Et puis nous avons aussi des livres plus récents, du XVIIe au XXe siècle.
Les livres sont abrités dans deux grandes salles et une galerie. Les rayons richement ornés de volutes baroques se trouvent sous les voûtes de la salle philosophale et de la salle théologique. La riche ornementation et les plafonds des deux salles couverts de fresques démontrent que les cisterciens n'étaient pas seulement épris de sagesse, mais aussi de beauté. Le père Jan Justin Berka présente les collections réunies dans la salle philosophale.
Tady je veliká sbírka Biblí ve 40 jazycích
Il y a une grande collection de Bibles en 40 langues, et à côté, il y a des livres de philosophie. Ils sont classés à l'ancienne. Il y a la section de la logique, celle des mathématiques, celle de l'astronomie, etc. Et dans le couloir des bibliothécaires qui débouche sur cette salle, il y a des livres sur d'autres thèmes.
Ce ne sont pas que des livres que le visiteur trouve à Vichy-Brod. Dans la galerie du couvent sont également exposées de nombreuses œuvres d'art baroque, et notamment une belle collection de toiles de František Xaver Palko, un des meilleurs peintres d'Europe centrale du XVIIIe siècle. Le couvent abrite aussi de précieux objets du culte et la Madone de Vichy-Brod, chef-d'œuvre de la peinture gothique créée en 1420. Jan Justin Berka explique que l'ordre des cisterciens a toujours soutenu les arts.
V roce 1838 pan Opat Valentin udělal první veřejnou galerii tady v tom kraji.
En 1838, l'abbé Valentin a installé ici la première galerie d'art public dans la région. Notre mission est de multiplier le bien que Dieu a déposé dans l'homme et donc de soutenir aussi les arts. Pour cette raison, notre ordre soutenait et continue de soutenir les arts. Notre mission est en premier lieu de chercher Dieu, Querere Deum, et c'est le point de départ de toutes nos activités. C'est pourquoi ont été créées des bibliothèques dans des couvents. Dieu a parlé, et c'est donc par la parole qu'il se fait connaître à l'homme. C'est par la parole que Dieu entretient le contact avec l'homme et vice-versa. C'est la raison de l'existence des bibliothèques monacales.
Dans l'enceinte du couvent de Vichy-Brod se trouve également le musée de la Poste, qui abrite une importante exposition de l'histoire de la Poste et des techniques de communication en Bohême, en Moravie et en Silésie, de 1526 jusqu'à aujourd'hui. Dans le musée, il y a également une des plus importantes collections de carrosses et de calèches de République tchèque et de bureaux de poste rénovés des 19e et 20e siècles. Des sentiers touristiques dans les environs de la ville permettent aux visiteurs de découvrir les beautés naturelles de cette contrée et de trouver les endroits où s'ouvrent de belles vues de la ville et du monastère. C'est du haut des collines environnantes qu'ils peuvent contempler le couvent et la ville de Vichy-Brod, où la foi, la sagesse et l'art ont trouvé refuge.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire consacrée aujourd'hui à la bibliothèque du couvent de Vichy-Brod que prend fin cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée par Magdalena Hrozinková. Réalisation Irena Viernochová et David Rada. Demain, rendez-vous avec Alexis Rosenzweig dans le magazine musical. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur internet au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse cr@radio.cz. Bonne fin de week-end, au revoir, naslyšenou.
Radio Praga continua.